VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Côte d'Ivoire, procès de l'ancien ministre ivoirien Hubert Houlaye, accusé de complicité d'assassinat dans le cadre de la mort de 7 casques bleus et 8 civils en 2012. Les avocats de la défense ont quitté l'audience hier. Solange Namolissa.
Les avocats de l'ex-ministre Hubert Houlaye ont affirmé ne pas disposer de plusieurs pièces produites par le parquet devant la cour d'assises d'Abidjan. Il s'agit notamment des procès-verbaux d'audition de la direction de la surveillance du territoire qui fonde le dossier de l'accusation. Maître Toussaint Dako a dénoncé une violation manifeste des droits de la défense, critiquant l'amateurisme du parquet. À l'ouverture de l'audience, M. Houlaye a clamé son innocence. Il a expliqué qu'il n'y a rien dans ce dossier et qu'il n'est pas impliqué dans ces attaques. Il a accusé la DST d'avoir fabriqué des faux documents pour l'incriminer et qu'il est poursuivi pour des raisons politiques. Il était porte-parole du gouvernement à l'époque de Laurent Gbagbo. De son côté, le parquet a récusé toute prise de position dans ces procès. Le procureur général Léonard Lebris a affirmé que les pièces contestées figuraient bien au dossier. Il a réfuté toute motivation politique et le procès doit reprendre demain jeudi.
Cameroun, la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, effectue depuis mardi une visite officielle dans le pays. Madame Scotland a appelé à l'unité et au dialogue, alors que le Cameroun connaît une grave crise socio-économique et politique dans ses régions de l'Ouest anglophone. La secrétaire générale du Commonwealth a été reçue en audience par le président Paul Biya le jour même de son arrivée dans le pays. Et au cours de sa visite de 4 jours, Patricia Scotland rencontrera les principaux responsables politiques, de même que des représentants des partis, de la société civile et du monde économique. République démocratique du Congo, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, a accusé les forces de sécurité congolaises et les milices soutenues par l'armée d'avoir planifié des massacres relevant de crimes contre l'humanité contre une ethnie du Kasaï. Des violences d'une ampleur et d'une gravité sans précédent ont été perpétrées dans cette région du centre du pays entre mars et juillet, ont déclaré dans un rapport de 100 pages publié aujourd'hui par la FIDH et ses organisations partenaires en RDC, les auteurs du document. La FIDH a aussi compilé une liste d'au moins 50 noms de présumés responsables des crimes commis sur le territoire de Kamonia et se réserve le droit de la transmettre à la Cour pénale internationale ou d'autres institutions. RDC toujours, l'opposition a reconnu son échec après la marche ratée d'hier. La mobilisation des masses contre le régime du président Joseph Kabila semble faiblir. Quelles en sont les raisons? Pour une analyse, Eddy Sango a joint Kinshasa, l'éditeur du journal indépendant La Prospérité, Marcel Ngoyi.
Déjà, l'appel à la marche a été contrecarré par d'autres appels à d'autres marches. Deuxièmement, il y a la réponse de l'autorité urbaine qui a refusé de prendre acte de la tenue de cette marche. À cela, il faut ajouter la menace de la police. Ce sont les deux présenteurs qui ont ramené à contre-courant de l'organisation de la tenue de cette marche. Il faut avouer que sous une température quelque peu plus parce que le matin, on s'est réveillé sur une petite pluie, cette marche en question n'a plus eu lieu dans les temps. Et dans la vision des organisateurs, parce que déjà, elle a été interdite. La marche qui transporte du permis du nez.
Ça fait déjà quelques fois que l'opposition appelle à des marches ou des manifestations, mais les gens ne répondent pas. Est-ce qu'on peut dire que les gens sont essoufflés? Qu'est-ce qui explique cela?
La raison majeure pour laquelle il fallait que les gens aillent dans la marche, c'est pour la tenue des élections. Le fait que la tenue ait publié un calendrier peut être un facteur qui est contre-productif par rapport à la réalisation de la marche. Mais c'est vrai que la situation du pays dans l'ensemble n'enchante plus les Congolais, mais on estime quand même que les mots d'ordre adoptés doivent coordonner, doivent construire à la situation. Si maintenant on a la crise socio-économique, on a tout ce qu'il y a comme présentateur, et puis il y a un problème important au Parlement avec le vote de la loi électorale, dans cette ambiance, lorsque les gens cherchent encore à comprendre, lorsque vous multipliez des masques, les masques risquent de se transformer en un flop. Il faudra à un moment que l'opposition recalibre ou revoie ses stratégies par rapport à l'ensemble de la lutte. Parce que si l'objectif final est d'obtenir l'alternance démocratique, pas de voix participative, donc pas les élections, Je crois que c'est par les élections qu'il faut se battre.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la crainte de se faire tuer qui fait que les Congolais ne sortent plus?
Je crois que c'est une des raisons importantes pour lesquelles les gens s'abstiennent. Le 19 au 21 septembre 2016, les jeunes Congolais ont eu à le démontrer autrement parce que la marche avait été autorisée. Mais tant qu'on n'autorise pas les marches, je crois que la vie de tension va continuer à être autorisée. Normalement, au lieu de tuer les marches auraient dû être encadrées. Et que le mot d'ordre des marches soit aussi bien canalisé qu'on sache bien ce qu'on veut faire un peu de marche. Il ne faut plus marcher, il ne faut pas marcher pour marcher. Il faut marcher avec un objectif bien précis. Et si l'objectif est du mieux, comme c'est le cas maintenant en Hongrie, on doit marcher parce qu'on doit obtenir les élections.
L'éditeur du journal indépendant La Prospérité à Kinshasa en RDC.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Angola, la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale, a ouvert une enquête sur de possibles détournements de fonds imputables à son ex-PDG, Isabel Dos Santos, la fille de l'ancien président José Eduardo Dos Santos. Les détails avec Eddie Isango.
C'est la presse angolaise qui révèle des transferts de fonds faramineux de la compagnie angolaise du pétrole vers des comptes privés. Selon les nouveaux journaux et le journal Economico, la nouvelle direction de la Sonangol a identifié un transfert suspect de 57 millions d'euros vers un compte à Dubaï. 10 millions d'euros ont été envoyés, selon ces révélations de la presse, vers une entreprise portugaise qui a Isabel Dos Santos comme actionnaire principal. La Sonangol a émis des réserves, mais son porte-parole confirme tout de même qu'une commission d'enquête interne est bien mise en place. Le parquet de Luanda dit n'avoir reçu aucune plainte de la Sonangol. Isabel Dos Santos dénonce une campagne de diffamation. Dans un tweet, elle parle de fausses nouvelles qui ne méritent aucun crédit. Nommée à la tête de la Sonangol par son père en 2016, elle a été remerciée les mois derniers par le nouveau président João Lourenço. Isabel Dos Santos est considérée par les magazines Forbes comme la femme la plus riche du continent.
Violence en Libye, le pays reste englué dans une interminable crise de transition sans solution crédible en vue. En dépit de la signature il y a 2 ans d'un accord politique censé mettre fin au chaos et aux profondes divisions entre camps rivaux. Le tout dernier signe de la crise en cours, l'enlèvement et le meurtre dimanche de Mohamed Estéoui, le maire de Misrata, 3e ville de la Libye. Parallèlement, la crise continue d'alimenter le drame de centaines de milliers de migrants qui vivent pour beaucoup un enfer aux portes de l'Europe. Actualité aux États-Unis maintenant, le Sénat américain a finalement voté dans la nuit de mardi à mercredi la réforme fiscale voulue par le président Donald Trump et l'a renvoyée à la Chambre des représentants qui doit l'adopter définitivement dans la journée. Cette réforme qui prévoit 1500 milliards de dollars de baisse d'impôts sur 10 ans est d'une ampleur sans précédent depuis la refonte du Code des impôts adoptée en 1986 sous la présidence républicaine de Ronald Reagan. Elle doit marquer 11 mois après l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, le premier succès législatif majeur pour la nouvelle administration. Actualité américaine toujours, le Kremlin a dénoncé hier ce qu'il a appelé le caractère impérialiste du rapport sur la stratégie de sécurité nationale publié la veille par le président Trump. La Russie accuse Washington de s'accrocher à un monde unipolaire et qui abadoue.
Pour le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le caractère impérialiste de ce document est évident. Il a ajouté que la Russie ne peut accepter qu'on la traite comme une menace à la sécurité des États-Unis. Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé hier un document qui ne vise pas la coopération mais la confrontation. Cependant, le Kremlin souligne quelques aspects positifs comme la volonté affichée de Washington de coopérer avec Moscou dans certains domaines. Le rapport sur la stratégie de sécurité nationale diffusé lundi par la Maison-Blanche affirme que la Russie essaye d'affaiblir l'influence américaine dans le monde. Le président Donald Trump a qualifié la Russie et la Chine de puissances rivales, mais a affiché aussi sa volonté de bâtir de grands partenariats avec ces pays. Les relations entre Washington et Moscou sont toujours tendues sur fond d'accusations d'ingérence russe et de divergences profondes sur la Syrie, la Corée du Nord et l'Ukraine.
Et pour terminer, guerre au Yémen, l'Iran dément fermement les accusations américaines et saoudiennes selon lesquelles il fournirait des armes aux rebelles chiites houthis du Yémen. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, cité aujourd'hui par l'agence iranienne ISNA. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.